Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Ça devient un véritable casse-tête juridique. La conformité, ou compliance en anglais, est l'art de respecter les nombreuses lois et règlements qui peuplent le monde des affaires. Contrôle des exportations, respect de l'environnement et des droits de l'homme, lutte contre le blanchiment et la corruption. N'en jetez plus. Bientôt, seule une intelligence artificielle pourra traiter autant de textes juridiques. Pour en parler, je reçois Emmanuel Dupic, ancien procureur, directeur éthique et conformité chez l'avionneur Dassault et auteur d'un guide de la compliance qui vient de paraître aux éditions Studirama. Bonjour Emmanuel Dupic.
Bonjour.
Allez, dans vos mots, c'est quoi la conformité ou en anglais la compliance?
Alors c'est vrai qu'on a du mal à le traduire en français.
Ouais.
On peut la définir comme effectivement des règles de nature juridique qui s'imposent aux entreprises, qui sont des impératifs des différents États. Mais c'est aussi un ensemble de valeurs éthiques que l'on retrouve dans les entreprises à travers de codes éthiques qui obligent un peu les salariés d'une entreprise et leurs parties prenantes à avoir des règles de conduite qui soient conformes à une éthique des affaires.
Alors, si on a du mal à le traduire en conformité, qui est le terme français, est-ce que ça veut dire que ça vient du monde anglo-saxon ?
Alors, tout à fait, effectivement. L'origine, on la date effectivement de 1976. Ce sont les Américains, le ministère de la Justice, qui a pris un code, le FCPA, on l'appelle le Foreign Corrupt Practice Act.
Donc, contre la corruption.
Qui est un guide contre la corruption qui était destiné à éviter des faits de corruption, et en particulier dans le monde aéronautique.
Ouais. Après, ça s'est multiplié sur d'autres secteurs. On a eu du mal, nous, Européens, à y venir ?
Oui, c'était très long. les fidèles spectateurs de cette émission se souviennent d'Alstom,
ouais.
Entendu. Le drame d'Alstom, qui débute en fait sur une enquête anticorruption menée par les Américains. Et il a fallu attendre 2016 en France, 2010 en Angleterre, pour que l'Europe commence à se douter enfin de dispositifs anticorruption.
Ouais. Ça veut dire que l'idée, c'est que la justice va sanctionner essentiellement des entreprises pour éviter donc le procès parce qu'elles se comportent mal d'un point de vue éthique ou d'un point de vue de la fraude ou de la corruption. C'est ça ?
Exactement. En fait, je pense qu'à partir du début d'une très forte mondialisation des échanges, les entreprises qui œuvrent dans d'autres continents, qui n'ont parfois pas les mêmes règles juridiques, pas même les mêmes assises étatiques, hein, des pouvoirs parfois un peu plus fragiles, pouvaient avoir la tentation, pour obtenir des marchés, effectivement, de pratiquer dès ce qu'on appelle des pots de vin, c'est-à-dire remettre des enveloppes et faire de la corruption. Donc la particularité de tous ces textes, effectivement, c'est d'avoir une application, on dit, extraterritoriale, qui sort de France, qui sort des États-Unis et qui vient, en fait, suivre les entreprises partout où elles opèrent dans le monde.
Et nous, on subit quand même une certaine inflation de ces textes du côté américain. Est-ce que ça nuit à la capacité pour nos entreprises de pouvoir gagner des marchés?
Alors, c'est devenu difficile pour les entreprises, hein. Moi, j'ai coutume de le dire, c'est ce que j'écris ici dans l'ouvrage. Il y a un ensemble de règles, que ce soit l'anticorruption, la protection des données, les normes d'export-contrôle, demain, l'intelligence artificielle.
Le devoir de vigilance aussi.
Le devoir de vigilance.
L'environnement, les droits de l'homme.
En matière de droits de l'homme et d'objectifs en matière d'environnement. C'est devenu compliqué pour les entreprises. La loi leur impose d'appliquer ces réglementations. Et vous avez même des régulateurs spécifiques, que ce soit l'autorité française anticorruption, que ce soit demain l'autorité vigilance pour les droits humains ou d'autres autorités pour la lutte contre le blanchiment, qui viennent s'assurer que l'entreprise respecte bien, à travers de plans de conformité, de plans de compliance, respecte bien ses obligations.
Alors, l'entreprise doit respecter le droit américain, le droit européen, le droit chinois demain, et puis peut-être d'autres pays, non, je suppose?
Exactement. Nous, dans notre dispositif interne, on forme par exemple nos collaborateurs qui se rendent dans des pays étrangers, dans des continents étrangers. On les forme également à un rudiment du droit local, parce que chaque pays a adopté ses propres règles anticorruption, par exemple, les cadeaux et invitations que l'on peut faire dans ces pays-là. Et puis, il en est de même pour aujourd'hui la protection des données. De plus en plus de pays adoptent leur propre réglementation. Mmh. Donc, une entreprise française doit jongler à la fois à travers ce carcan des règles européennes. Chacun pense effectivement à ce qu'on appelle le devoir de vigilance pour les droits humains, mais aussi les règles américaines qui s'appliquent souvent parce qu'elles prennent des transactions en dollars, parce qu'elles utilisent des technologies américaines qui les font se soumettre aux règles américaines, et en plus d'appliquer bien sûr le droit local du pays dans lequel on se trouve. Donc c'est difficile, notamment pour nos petits écosystèmes, nos PME, nos ETI, qui sont bien sûr moins armés que peuvent être de certains grands groupes qui disposent de direction conformité.
Et qu'est-ce que vous voyez poindre depuis la Chine ?
La Chine, c'est un... On est au-delà même, j'allais dire, de ces difficultés réglementaires, puisqu'on a vraiment le sentiment même d'avoir un autre ordre économique qui est mis en place. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la Chine, contrairement à nos systèmes occidentaux de droit, le droit occidental, il est construit autour de l'homme, de la liberté de l'homme, hein, c'est le sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme que chacun connaît. Le système, le droit chinois, il est plutôt conçu à travers la communauté et le parti. Donc on voit bien que l'objectif final n'est pas le même. Ça veut dire pour les entreprises un risque assez quand même important lorsqu'on fait du commerce dans ces pays par rapport aux réglementations compliance qui s'y appliquent.
Ça veut dire qu'il faut s'y réfléchir à deux fois avant d'aller faire du business en Chine.
Ça veut dire que toute entreprise aujourd'hui qui fait du commerce dans le monde doit effectivement avoir une posture de vigilance par rapport à ce qu'on parle aujourd'hui, les règles de compliance, et effectivement se documenter, se faire accompagner par des juristes, par des avocats, effectivement, avant de commencer véritablement des business dans ces pays, et en particulier, effectivement, je crois, en Chine.
Inflation, on l'a dit, hein, on comprendra bien à travers ce livre et à travers vos réponses. Est-ce qu'il n'y a pas une instance internationale où on devrait un petit peu coordonner tout ça ? Est-ce que, par exemple, ce n'est pas le boulot de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC ?
Alors, l'Organisation mondiale du commerce, effectivement, historiquement, elle a été chargée de faire en sorte que des règles de concurrence soient à peu près les mêmes pour chacun, pour faire une concurrence mondiale qui soit utile au business. Malheureusement, effectivement, aujourd'hui, on est dans des domaines de très forte souveraineté. Hein. Ce qui incarne la souveraineté d'un État, c'est quand même ces normes dont on parle aujourd'hui, les normes de compliance. Alors, on voit bien qu'au niveau...
Vous voulez dire que ça ne va pas s'arranger, quoi.
Je dis qu'au niveau européen, en tout cas, il semble qu'il y ait un socle commun qui est en train de se dessiner. On pense bien sûr aux règles sur la protection des données.
Oui. Hein.
Demain, peut-être l'intelligence artificielle. L'anticorruption, c'est peut-être la future directive qui va arriver pour l'Union européenne. Donc là, on a au moins une règle du jeu qui vaut pour l'Europe des 27. Et puis on le sait qu'il s'appliquera également à nos amis, c'est-à-dire les Américains, les autres entreprises qui vont venir en Europe et qui devront se conformer à ce champ réglementaire.
Non, mais on est d'accord qu'on zappe complètement, là, les pays zappent complètement l'OMC et le multilatéralisme économique à travers chacun sa petite règle, chacun sa petite norme juridique.
Bah, c'est le problème de la mondialisation. On a appelé ça, à un moment donné, le forum shopping. Il existait en droit. Hein, on pouvait choisir des pays qui avaient effectivement des cadres réglementaires plus intéressants d'un point de vue fiscal, par exemple.
Oui.
On sait que certains pays en Europe ont été connus pour cela. Beaucoup de sièges sociaux s'y sont installés. On sait que certaines entreprises ont pu avoir tentation d'aller dans d'autres continents pour aller chercher du droit du travail ou des normes de respect des conditions de sécurité qui n'étaient pas au même standard que le monde occidental. Donc on voit bien qu'il y a un forum shopping et donc il y aurait un besoin important, effectivement, d'avoir des règles un peu qui soient internationales, sous l'égide de l'OMC, voire des Nations Unies.
Donc on disait au début de l'émission que l'Europe avait un peu de retard sur ces problématiques. Elle est en train de se réarmer à travers un certain nombre de textes, le devoir de vigilance, etc. Est-ce qu'il ne faut pas passer à l'étape suivante, c'est-à-dire frapper des entreprises qui contreviennent à ces textes comme les Américains l'ont fait ?
Alors oui, je crois que, moi je l'ai modestement écrit dans mon ouvrage, je crois qu'il y a un retour qui est très intéressant, puisque le monde européen s'est vu infliger, sous le coup de sanctions américaines, Alstom, Airbus, effectivement...
BNP, 9 milliards.
La compliance américaine. Et puis aujourd'hui, l'Europe est en train de construire également son droit de la compliance, qu'on est en train de faire appliquer aux sociétés américaines. Je pense au devoir de vigilance, pour les droits humains et l'environnement. Je pense également...
Alors, ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Le texte a été voté, mais les entreprises étrangères et leurs filiales, c'est pour dans 2-3 ans l'application.
2027. Ouais. Donc, effectivement, pour tous ceux qui font du business en Europe, c'est demain. Ouais. Hein, ça va venir très vite. La protection à données, c'est déjà le cas. Mm-hmm. Et comme vous l'indiquez, effectivement, je crois qu'il est important que les opérateurs européens, les CNIL européennes,
donc,
sanctionnent.
Les CNIL, c'est l'opérateur qui défend nos données personnelles, hein, dans chaque pays.
Tout à fait. Donc, les superviseurs, les autorités de contrôle de la compliance, la protection des données, sanctionnent, comme pourrait sanctionner l'autorité française anticorruption des entreprises étrangères qui peuvent commettre également des faits de corruption en France ou en Europe. Il y a eu une démarche, effectivement, très intéressante des entreprises françaises qui ont connu effectivement des contrôles administratifs de l'autorité française anticorruption qui ont permis beaucoup d'entreprises effectivement d'élever leur niveau de compliance par rapport à ces recommandations. Moi, je peux vous indiquer, étant dans le monde anglo-saxon et français, que nous avons une norme aujourd'hui, la norme Sapin 2, c'est-à-dire la loi
Sapin de 2016
sur l'anticorruption, qui est un standard très au-dessus de ce que préconise la norme américaine qu'on appelle le FCPA.
Donc, il va y avoir un conflit de loi. Laquelle va s'appliquer, la loi européenne ou la loi américaine?
Le plus haut standard, toujours le principe, le standard le plus important. En tout cas, pour une entreprise française, très clairement, elle est soumise à l'autorité française anticorruption. Donc, elle doit appliquer le standard français.
Une dernière question. Est-ce que cette conformité est rattachée dans les entreprises à une direction juridique ou est-ce que, d'après vous, elle doit être autonome?
Alors, c'est un grand enjeu, la question de la gouvernance de la compliance, effectivement. Le modèle américain, c'est plutôt un modèle où il y a une autonomie de la direction compliance. Beaucoup d'entreprises françaises, c'est le cas pour Dassault Aviation, a fait le choix de faire porter ce sujet d'importance dans une direction propre, éthique et conformité. Donc il y a différents modèles, soit encore aujourd'hui parfois des rattachements auprès de directions juridiques ou voire des directions risques aussi, puisque vous êtes sur une dimension de risque. La compliance, c'est un mix entre la perspective légale, direction juridique, mais également une approche de réduction du risque, c'est-à-dire une approche d'audit de direction risque.
Merci beaucoup Emmanuel Dupic pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.